Bonsoir et bienvenue sur votre émission Catalyse sur fréquence Mistral Digne que vous écoutez sur 99.3 FM avec ce soir Jean-Michel Discala qui est notamment luthier sur Sisteron que nous allons accueillir dans quelques instants. En préambule, je voudrais juste donner une information donc par rapport aux activités de l'association Catalyse que vous allez retrouver le dimanche 7 septembre toute la journée lors du forum des associations à Digne qui se déroulera sur le boulevard Gassendi. Il est prévu beau temps, donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer. De toute façon, vous nous trouverez, je pense, facilement puisqu'on amènera un petit peu des instruments histoire qu'on puisse nous entendre un peu de loin et partager des moments sympas. Et puis derrière ça, il y a le mercredi 24 septembre, un spectacle qui s'appelle Odyssée onirique, que l'association organise au Centre culturel René Char, que je remercie de nous accueillir. C'est un spectacle donc avec un groupe, ou plutôt un collectif, Morpheus Lab, que vous avez déjà pu voir lors de la fête de la musique, qui jouera ses compositions, accompagné de Laura de Shaya Dance, qui accompagnera ses morceaux avec des danses improvisées, mais aussi Lou Sol, Louise, une jeune lycéenne de Digne qui fera aussi quelques-unes de ses compositions sur scène, et puis aussi Farouche Deva, Joris, qui seront là aussi pour apporter une partie théâtrale, notamment sur ce spectacle. Et puis il y aura de la poésie, il y aura de la peinture, enfin vraiment de quoi vous emmener assez loin dans ce voyage. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, sur le Facebook ou Instagram de Catalyse, vous trouverez toutes les informations, avec notamment des préventes à tarifs préférentiels. Donc voilà, le mercredi 24 septembre à partir de 18h30 au Centre culturel René Char à Digne. Voilà pour les informations. Donc je vais accueillir maintenant Jean-Michel Discala. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Donc, je suis luthier installé à Sisteron, dans le centre-ville, dans la rue piétonne. Je me suis installé en septembre 2020, là, quelques jours près, ça fait 5 ans. Voilà, en pleine période un petit peu de ralentissement de la vie et d'un tas de choses. Un risque à prendre, mais que j'ai pris bien volontiers.
Et alors, si on vient à la genèse de tout ça, je vais te poser la même question que je pose à tous mes invités. C'est la musique, ça te vient d'où ?
Ça vient de très très loin, la musique, pour moi. J'ai une grande sœur et un grand frère, on a pas mal d'écart quand même. Du coup, je pense que j'ai été un petit peu bercé par tout ce qui était rock des années 80, fin des années 70, par mon frère et ma sœur. Donc à partir des années 80, tout ça, ce qui ne veut pas dire forcément que je sois fan des années 80, attention. Mais il y a quand même voilà, une culture un petit peu rock derrière, qui m'a un petit peu porté. J'ai eu mes premiers disques de, je ne sais plus à l'époque, c'était quoi Toto, il y a eu Police, il y a eu Super Tramp, il y a eu un petit peu plus dur du côté de mon frère avec des Motorhead, AC/DC, bon évidemment. Et puis bon, déjà c'est parti là. D'un point de vue de la musique, c'était assez intéressant. Ça allait dans le même sens pour les deux là, le frère et la sœur. Et puis moi j'étais là au milieu, écouter tout ça, Je me souviens aussi de trois trucs assez particuliers pour l'époque aussi. Début de la musique électronique, Jean-Michel Jarre, Vangelis aussi, pas mal de classiques aussi. Mes parents, mon père écoutait plus la radio, n'était pas très sensible à la musique passée, quelle qu'elle soit. Puis, enfin voilà, ça, c'est parti de là. Après, bon, moi, j'ai fait mon choix. Évidemment, je préférais quand ça criait un petit peu plus le hard rock, Motorhead, tout ça. Et puis, bon, après, je m'y suis mis tout seul comme un grand.
Quoi, à l'adolescence, c'est quelque chose
Un peu avant,
un peu avant,
un
ok.
peu avant l'adolescence. Bon, il y a eu tous les AC/DC, Metallica, enfin tous ces classiques hard rock, voilà, enfin qui partaient un petit peu fin des années 70, début des années 80, avec tout ce qui était new wave, heavy metal. Je sais pas, UFO, un petit peu de punk aussi. Enfin voilà, j'allais plus faire un petit peu faire mes recherches entre guillemets. Je cherchais pas grand-chose. Je me contentais d'écouter et de secouer la tête, comme on dit, quand on écoute du hard rock. Et puis voilà, enfin, c'était là. Deux trois trucs des Sepultura, voilà, j'étais pas encore ouvert à d'autres styles de musique à cette époque-là, en tout cas,
Ok.
mais c'est parti de ce style-là, quoi.
Et là, du coup, tu vas commencer à jouer d'un instrument à cette époque-là?
Oui, alors je me souviens avoir un peu tapé sur des batteries chez des copains, là j'avais 8 ans. Un petit peu de guitare, je me souviens aussi de. J'avais un voisin, enfin un voisin, un petit peu éloigné à quelques centaines de mètres de chez mes parents quand j'étais gamin, qui lui était fan de rockabilly, mais ça c'est venu après. Ça c'était plus quand j'étais ado, vers 13-14 ans. Voilà, lui c'était Elvis, les Stray Cats, Brian Selzer. Il y avait quoi aussi? George Thorogood. Lui, bon, enfin, il était. Voilà, j'ai de très bons souvenirs, et puis je le remercie encore d'ailleurs de m'avoir fait essayer ces guitares. C'était les premières guitares électriques que j'essayais, et puis alors là, ça a collé de suite. J'étais. Fan absolu, voilà, conquis par l'instrument, l'outil qui véhiculait cette musique-là, en fait.
D'accord, ok. Et ensuite?
Ensuite, groupe ado, groupe de collège, lycée, on s'amusait, enfin, c'était marrant, quoi. Et puis, comment dire? Après, moi, j'aime bien bricoler. Donc ça, c'est le parallèle à la musique, et à un moment donné, la jonction s'est faite avec la lutherie sauvage au début. On va appeler ça lutherie sauvage. Démonter une guitare, la couper en deux pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, fatalement, la guitare classique. Qui coûtait trois fois rien, peut-être 50 francs à l'époque, en francs, hein, attention, elle était foutue. Voilà, une fois qu'on a coupé ça en deux, impossible de la remonter. Mais bon, j'avais vu comment c'était l'intérieur, les barrages, le bois. Ah, tiens, c'est du bois, c'est intéressant. Alors, j'avais déjà un peu l'envie, l'âme, depuis bien avant d'ailleurs, l'adolescence, de fabriquer mes jouets, de peindre, de m'amuser avec trois fois rien, comme beaucoup de gamins d'ailleurs, mais de pousser un petit peu la chanson avec des fabrications qui pouvaient éventuellement être utiles. Donc créer des outils, un pupitre pour un chevalet, pour peindre. Je sais pas, une fois j'ai essayé de faire une guitare avec une raquette. Bon, j'étais vraiment gamin, là je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. C'était je crois, une raquette de badminton ou un truc de plage en bois, enfin, délirant. Oui, avant, les raquettes étaient en bois aussi. Donc, voilà, il y a quand même une attirance pour le bois, la musique. Et puis, ben, ces deux parallèles ont fait qu'à un moment donné, ils se sont rejoints. J'ai voulu absolument me fabriquer ma première petite guitare quand, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Qui, évidemment, ben, ça n'a pas fonctionné, parce que ça demande quand même un petit peu de sérieux, quelques notions de travail du bois, de mathématiques, de... Bon, enfin, hormis le fait que c'était extrêmement moche et mal fait, ça ne fonctionnait pas non plus. Et puis, bah, quand on veut un truc, on pousse un peu. Mmh. Et puis, c'est là qu'on se rend compte si, pas forcément si on est capable, mais si on a envie déjà de le faire. Et si on a envie de continuer, de persévérer là-dedans, de choisir sa voie, jusqu'à ce que ça devienne... une passion, on va pas dire une obsession parce que bon, faut pas se faire mal non plus, mais voilà, c'était ce côté amusant, ludique, on se crée une vocation avec l'envie et la passion en fait.
Okay. Et du coup, comment on devient luthier?
Aucune idée. Non, je plaisante. on devient luthier avec le temps, avec l'expérience, avec des rencontres aussi. J'ai rencontré beaucoup de luthiers. J'ai fait le tour de Marseille, ville là où je suis né. Et puis bon, là, à cette époque-là, j'étais un petit peu plus autonome. Là, je commençais à avoir 15-16 ans. J'allais voir des luthiers, j'avais une guitare électrique que je bricolais moi, que je réglais moi-même, je changeais les cordes. Alors on commence par changer les cordes, après on commence à dire « Ah ouais, mais là c'est beaucoup trop, c'est injouable, ça va pas du tout, tiens, oh, ben, c'est de la bicyclette, c'est du vélo, tout est mécanique, tout est vissé, donc si on dévisse... bon, ben, faut regarder avant de dévisser comment c'est fait. »
Il vaut mieux.
Voilà. Alors, c'est arrivé que des fois, on peut s'emballer, dévisser, et puis « Ah, j'ai oublié de regarder comment c'était fait avant, c'est pas malin, tiens, comment je fais maintenant ?» Donc voilà, on apprend en faisant des erreurs, évidemment, aussi. Si on est un tant soit peu malin, qu'on regarde, bon, bah, on s'en sort. « Ah bah tiens, là, j'ai fait une bêtise, ça n'a pas marché. » Ok, bon, bah, la prochaine fois, je le ferai plus, voilà. J'avais rencontré des luthiers à l'époque, un petit peu dans Marseille. Il n'y en avait pas énormément dans les années 90, début 90. Bon, enfin, c'est toujours de bons souvenirs, de belles rencontres. Et puis j'ai persévéré, je me suis intéressé à la guitare, à d'autres instruments aussi. Et puis un jour, j'ai rencontré... Des luthiers en classique, donc luthier spécialisé dans le quatuor, violon, violoncelle, contrebasse, et instruments acoustiques. Et ils avaient un atelier absolument magnifique, c'était vraiment merveilleux. Tout était un peu comme si on rentrait, on faisait un bond dans le temps, parquet en bois, de beaux établis anciens. L'odeur des vernis, l'école naturelle qui sont un peu fortes mais qui ne sont pas nocives. Et là, j'ai vu des guitares que j'avais jamais, jamais, jamais vues avant, des guitares de jazz. Et là, je rentrais dans un univers complètement différent de celui que je connaissais, à savoir la guitare électrique. Qui n'est pas qu'un bout de bois plein avec des cordes, mais là il y avait une finition, une esthétique, des courbes, de la lumière qui se reflétait dessus, vraiment de beaux instruments élégants, fins, de la marqueterie. Là c'était nouveau pour moi et je suis vraiment tombé amoureux de ces guitares là. Et puis j'ai lié quand même une amitié avec ces luthiers là Et ça a été complètement nouveau pour moi à ce moment-là, et je me suis lancé dans ce type de guitare-là, uniquement la guitare de jazz, qui, à mon sens, voilà, enfin, c'est très personnel, hein, les goûts et les couleurs, mais pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus prestigieux. Il y a une histoire assez intéressante entre le violon et ce type de guitare, les guitares jazz dites guitares archtop. C'est quasiment les mêmes procédés de fabrication, les sculptures de la table, du fond, les côtés qu'on appelle les éclisses. C'est les mêmes bois utilisés que sur les violons. C'est la même mécanique acoustique. Enfin, c'était vraiment le prestige, voilà, de l'instrument roi du violon, qui est passé à la guitare à partir des années 20, donc 1920, 1930. On a commencé à avoir ces instruments-là. Bizarrement, ils avaient beaucoup des noms italiens aussi. Donc peut-être qu'il y a eu une histoire commune entre les luthiers, l'immigration aux États-Unis italienne, avec les maîtres luthiers en violon, qui ont transmis leur savoir-faire de père en fils, et qui a suivi. Et les instruments ne sont pas transformés, mais disons, le violon existe toujours, heureusement et bien entendu, mais... Comment dire, l'instrument est devenu plus populaire et a changé. C'était plus le violon, c'était la guitare à partir des années 30 jusque, bon, enfin, dans les années 50, un peu âge d'or de ce type de guitare-là. Et on y retrouve vraiment les caractéristiques d'un violon.
Alors, c'est marrant parce que musicalement, hein, j'entends dans ton histoire, moi ce que j'entends, c'est que tu es passé du hard rock au rock, rockabilly, et puis là tu me parles de jazz.
Oui, heureusement. Non, mais après, alors je vais pas dire on vieillit, on grandit. Alors c'est bien le hard rock, c'est très intéressant. Le hard rock, il n'y a pas de limite. C'est une musique qui est très codée, mais en même temps, on peut se permettre énormément de choses. Il n'y a pas de barrière de son. Le son, bon, généralement, on connaît le hard rock sous la forme de la caractéristique, c'est déjà c'est le son saturé, c'est pas forcément hurler derrière un micro, mais quand même oui, des fois oui, mais au niveau des sons des guitares, voilà, c'est déjà assez saturé, donc il y a quand même comment dire, une barrière qui a été franchie. On n'est plus sur le son clair, le voilà, on a dépassé un cran, on n'a pas peur, on a passé le mur du son, on va dire, entre guillemets, c'est assez rigolo cette expression, parce qu'on le retrouve beaucoup dans le hard rock des années 80, avec les murs d'ampli qui servaient à pas grand-chose d'ailleurs, mais bon,
Ça fait joli.
ça fait joli, ça fait une grosse scène un peu lourde, mais bon, voilà, c'est ce concept de il n'y a pas de barrière, on peut se permettre, on peut jouer très vite, on peut jouer très lentement, ça peut être très lourd. Ça crée, je pense, de bons musiciens. Enfin, moi, je connais énormément de musiciens qui ont évolué de la guitare et du son hard rock. Et tout ce qui est métal, tout ça, vers jazz rock, jazz fusion, jazz, qui sont revenus à la musique classique. Une grande partie de la musique hard rock, les solistes fin des années 70, pour citer par exemple Eddie Van Halen, avaient une petite touche classique dans ses solos. Bon, étaient très polyvalents. Aussi bien en guitare rythmique, c'était très coloré comme jeu. Enfin, donc voilà, enfin, ça m'a beaucoup porté. J'en écoute toujours, j'aime bien. Et puis on se calme un peu aussi en vieillissant. Là, ça c'est pour moi, pour vieillir. On mûrit, on écoute d'autres choses, on apprend à écouter différemment des choses. Bon, après, j'ai fait une école aussi de jazz, donc au début j'ai strictement rien compris, mais qui m'a énormément apporté par la suite, à force de rencontres, d'y voir vraiment quelque chose de, non pas de théorique, mais de... On ouvre des choses aussi, on peut se servir de son saturé, je pense à des guitaristes comme Frank Gambale, qui jouait pour des grandes marques connues. Au début c'était très jazz rock, c'était saturé, ses solos, tout ça. Et puis finalement, pour en revenir à un jazz, jazz rock, quand même avec un son jazz classique.
Ok. Et donc, du coup, les guitares que tu fabriques, dans ton esprit, c'est pour faire quoi ? Puisque tu as dit que tu aimais faire des objets utiles.
Oui, du jazz, des guitares de jazz. Voilà, je reste... Après, c'est un choix purement professionnel. J'aime toutes les guitares, tous les types de guitares. Il n'y a pas un moment où, quand tu vois une guitare... si c'est bien fait, si c'est une guitare ancienne, une collection. Bon, il y a des grandes marques connues qui ont une cote aujourd'hui, tout ça. Mais c'est vrai que je suis très attiré par l'instrument, quel que soit le style de guitare.
Okay.
C'est, je trouve ça, ça véhicule son époque, son style, l'histoire de la marque ou de la famille qui l'a fabriquée. Il y a des grands noms en France de la guitare, il y a aux États-Unis, il y a au Japon aussi, ils travaillent très très bien, et c'est à chaque fois c'est des lutheries, enfin c'est de la lutherie qui est complètement différente parce qu'elle est très personnelle. Quand on est luthier, on peut se permettre de créer, d'imaginer. On part toujours d'une base, on va regarder telle guitare qui a énormément été jouée par énormément de groupes ou de très bons musiciens. On va dire, bon, effectivement, on fait une synthèse, c'est celle-là que tout le monde aimerait avoir. Donc je vais me servir un petit peu de ce modèle-là pour la déformer d'un point de vue d'un dessin. On va pas déformer la guitare originale, hein.
Pour réinterpréter...
Voilà, ma vision au travers de cet outil-là, quoi.
Mmh. Okay. Et ta vision, c'est quoi en général ? C'est vraiment sur chacun des modèles que tu vas sortir de ton atelier, tu as une vision particulière, tu as quelque chose que tu essaies de véhiculer ou tu as quelque chose qui te... un fil rouge un peu
Non, enfin, quand on est luthier, on pose un cadre. C'est un peu comme de la couture. On prépare déjà ce qu'on va faire. On part pas. C'est un art, mais faut pas confondre art où on va partir complètement en freelance, libre d'avancer au fur et à mesure. Ah bah tiens, là, je vais faire ça. Non, on suit une idée, un plan, un dessin, une cote qu'on s'est donnée. Sinon, ça ne fonctionne pas. On arrive à quelque chose d'unique. On y passe vraiment trop de temps. C'est pas gagné et c'est pas sûr que ça marche à l'arrivée, que ça puisse fonctionner correctement. Donc, on a nos propres recettes, notre façon de faire, nos propres cotes, et puis on aime créer des modèles, leur donner un nom, avoir un suivi parce qu'il faut aussi un petit peu quelque part fonctionner comme les grandes marques. Ça c'est pour la clientèle. Si je fais à chaque fois quelque chose de différent, dire bon ouais d'accord, mais en réalité on n'est pas sûr du truc à l'arrivée.
Comment ça se passe quand on arrive dans ton magasin et qu'on a l'envie d'une guitare de luthier ? Comment ça se passe ? Tu as des différents modèles, tu essaies de voir par rapport à ce que la personne veut.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, il y a des modèles qui sont prêts, déjà. À l'essai, enfin la plupart du temps, Et puis j'attends pas forcément la demande sur mesure pour créer. Voilà, j'attends, je vais pas attendre que le client vienne, me dise voilà, moi j'aimerais avoir une guitare. Alors ça peut se faire. À ce moment-là, c'est une commande spéciale. Mais sinon, je crée les modèles au fur et à mesure. Je les fabrique, je les monte. Un client peut venir dans l'atelier sur rendez-vous ou pas. Ah bah tiens, celle-ci, oh tiens, qu'est-ce que ça donne? Bah, je peux l'essayer. Oui, bien sûr, monsieur, pas de souci, allez-y. Voilà, je vous installe, il essaye, si elle lui plaît, c'est gagné. C'est encore mieux. Parce qu'il n'y a pas à attendre. Alors, ça, c'est un petit peu compliqué aussi. La plupart des gens ont pas forcément envie d'attendre. Les délais sont quand même longs pour fabriquer une guitare. Il y a quelques mois de travaux dessus. Il faut préparer. Enfin, faut même si c'est des modèles que je crée régulièrement, voilà, ça prend quand même un temps assez long. Il faut à peu près 100, 150 heures de travail dessus en moyenne. Ça peut aller un peu plus vite, ça peut être plus long suivant les finitions, tout ça, les types de vernis, s'il y a de la marqueterie aussi. Mais l'important, voilà, c'est que déjà on sache un petit peu à quoi s'attendre. Et ça, la seule solution, c'est bon, ben, on prépare un modèle, il est prêt, il est là, il est en stock, on l'essaye, si ça plaît, on peut partir avec.
Ok, d'accord.
Voilà. Après, il existe aussi le modèle sur mesure, la particularité, la guitare expérience. Quelqu'un veut quelque chose de unique, avec des cordes en plus, avec une forme bizarroïde. Enfin, on peut aussi. Voilà.
Ça prend peut-être encore plus de
Et ça,
temps.
c'est encore plus long. Parce que là, il faut refaire un dessin, il faut recréer, pardon, le moule pour la mise en forme des éclisses, les côtés. Il faut créer des gabarits, il faut mesurer, il faut avoir. Voilà, et là, bah, rien n'est sûr.
Rien n'est sûr.
Ah ben non,
Ok.
c'est pas une science exacte à ce compte-là, sur une guitare qui va être carrée. On peut, mais esthétiquement, bon, ça va être un peu bizarre. Alors oui, ok, ça va faire marrer, ça va fonctionner. Par contre, par exemple, une guitare carrée ou rectangulaire au niveau de la caisse, qu'est-ce que ça va donner une fois que le gars il va être assis, s'il veut faire une session studio, comment il va la caler en fait au niveau ergonomie sur ses cuisses, comment il va se tenir avec, est-ce que ça va être un peu gênant, les angles. Donc voilà, c'est un peu l'idée aussi de ne pas trop sortir des sentiers battus et de faire voilà ce qui existe déjà, on l'améliore, on le fait à notre façon. Mais bon, enfin, moi je suis très classique dans la fabrication. Je vais pas aller faire de la guitare rectangulaire ou complètement ronde. Voilà, il y a une forme, il y a des. Le dessin d'une guitare est très féminin, on le retrouve sur des violoncelles. Bon, ces fameux dos de femmes avec des ouvertures en F comme les violons et les violoncelles. Donc ça reste très féminin avec des épaules, des hanches, un bassin. C'est élégant, voilà, il y a ces courbes qui sont toujours très fines et qui peuvent changer. Voilà, c'est ça qu'on va plutôt changer à notre goût, voilà, suivant chaque luthier ou client qui veut quelque chose de différent.
Ok, bon. Donc où c'est qu'on peut venir te voir
Ah
dans
ben dans
ton
mon
atelier?
atelier. Alors l'atelier se trouve au 161 rue Droite, à Sisteron. C'est un atelier ouvert avec une vitrine. Donc ça aussi, il y a une démarche un peu pédagogique de pouvoir accueillir. On me voit travailler et travailler au même endroit en fait. Donc il y a un accueil, une espèce de showroom à l'entrée qui n'est pas séparé de mes premiers établis en fait. Donc on me
D'accord,
voit
ok.
constamment en train de travailler. Donc il y a des horaires d'ouverture prévus à cet effet où je ne me lance pas dans des manipulations ou de vernis où là je ne peux pas décrocher, je ne peux pas lever le nez. Là je ne vais pas être disponible. Donc ça, je viens très tôt le matin pour ce genre de manipulation et de travaux. Et à partir de 10h, là, l'atelier reste ouvert à tous jusqu'à midi. Et après, je fais 14h, 17h. Et puis, bon, bah, souvent, je finis plus tard sur des rendez-vous. Quelqu'un veut essayer quelque chose. Voilà. Et le principe aussi d'un atelier qui n'est pas privé, comme la plupart des luthiers ont des ateliers, mais. Il n'y a pas de vitrine, c'est souvent chez eux, ce que je faisais avant d'ailleurs. C'est plus compliqué, on ne nous voit pas, on ne sait même pas qu'on existe. Alors pour beaucoup, j'entends beaucoup de gens de passage, d'autant plus que je suis dans une rue piétonne, donc ça intéresse aussi beaucoup le tourisme. La phrase récurrente, un peu triste ou nette, c'est « je ne savais pas qu'il y avait encore des luthiers ». Bon, enfin, si. Heureusement pour moi et pour les collègues, confrères, oui, on est encore là, il y a encore des artisans, le fait main et le sur-mesure existent encore. Mmh. Voilà, malheureusement, c'est très compliqué. Avoir une boutique, c'est des charges en plus qui sont assez conséquentes. Et du coup, faut arriver à sortir un petit salaire de tout ça, quoi.
Okay. Mais du coup, ça te permet aussi à toi d'accueillir, de rencontrer des gens.
Oui. Alors il y a de très belles rencontres. Il y a des gens de passage. Il y a des gens qui ne jouent pas du tout, mais sont très intéressés par l'objet, puisque c'est aussi un objet d'art, une guitare. Et puis bah là on rentre dans des discussions, j'ai rencontré des gens qui ont vu des concerts tout à fait incroyables, enfin, je sais pas moi, Hendrix en concert ou des trucs comme ça, enfin, c'est waouh. Et puis alors ils jouent pas de la guitare, mais ils ont ces anecdotes à raconter, et puis ça, des fois on crée une amitié, on correspond, on peut s'écrire. J'ai rencontré un écrivain il n'y a pas très longtemps avec qui j'ai correspondu. Il m'a envoyé son bouquin. Génial. Enfin, voilà. Des trucs comme ça. Il y a aussi des musiciens. Bon, là, c'est autre chose. C'est pas plus intéressant, mais là, on est... on parle musique à ce moment-là. On parle guitare, on parle passion... Les passions se véhiculent aussi, s'échangent. Du coup, il y a des savoirs que eux ont, moi je n'ai pas. On échange des idées. Il y a d'autres luthiers en vacances qui passent.
Oh,
bah, tiens, c'est génial. Alors, on s'échange les cartes, on s'envoie un petit mot. Là, c'est encore arrivé cet été. Enfin, c'est une autre vie, avoir une boutique, atelier en même temps, c'est très enrichissant en fait, d'un point de vue humain.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, sur toi, ta production, c'est de la guitare jazz.
Uniquement.
Uniquement.
Oui.
Ça représente combien de guitares par an?
Maximum, alors aucune idée, c'est parce qu'il y a les réparations aussi qui rentrent en jeu, donc ça prend pas mal de temps. Il y a l'accueil du public, il y a tout un tas de choses. Bon, en moyenne, un luthier qui travaille sans aide informatique, on va dire, puisque ça aussi c'est des nouveaux outils. Bon, moi ça me branche pas du tout, j'aime pas ça. Moi j'aime le calme, il y a pas de musique dans mon atelier. J'aime le bruit du bois quand on le travaille, j'aime son odeur, tout ça. Mais donc tout est fait à la main, donc c'est plus de temps. C'est moins de bobos aussi, fatalement. Parce qu'il y a moins de risques de passer les doigts dans une toupie ou un truc comme ça. Donc je préfère travailler la gouge, le ciseau à bois, le rabot à main... Bon, j'ai une scie à ruban, je n'aime pas du tout la circulaire, c'est ouf. Voilà, j'ai une scie à ruban pour les grosses épaisseurs, tout ça, mais en gros, un luthier qui travaille comme moi devrait être capable de sortir. Voilà, moi j'arrive à sortir, si je m'y mets régulièrement, une dizaine de guitares par an.
Ok,
Voilà, si c'est
d'accord.
bien agencé. Alors, on travaille pas, je travaille pas en série, mais j'essaie d'optimiser les mouvements, les affûtages. Quand je fais une sculpture de table de guitare, archtop, je vais en faire plusieurs en même temps. Comme ça, je garde mon mouvement, je garde le, j'améliore le style, la manipulation de l'outil, l'établi est optimisé, il est prêt.
Les
Quand
outils sont sortis,
voilà,
sont...
c'est ça, paf, je prépare, je travaille. Alors, j'aime pas dire ce mot, puisque pour un artisan, on l'a un peu en horreur, le travail en série. Non, on varie les plaisirs, mais on travaille intelligemment. Donc, en optimisant ça, on dit à l'arrivée, on a préparé une collection et pas une série de guitares à l'année, par exemple. Moi, je présente ça sous forme de collection. Ben, cette année-là, j'étais inspiré par telle couleur, par exemple, pour la finition. Ben, je vais faire cette finition-là. Je vais faire un bordeaux en vernis transparent. On voit le bois aussi. Les vernis, ben, j'essaie de faire des vernis à l'alcool, à l'ancienne, en gomme laque, donc vernis au tampon. Les colles, quand je fabrique aussi, c'est des colles parfaitement propres. C'est les colles anciennes qu'on utilisait pour les violons. Enfin,
Pour le violon, oui,
c'est
tout
les
à fait.
mêmes procédés que pour la fabrication des violons. Il n'y a pas d'assistance mécanique avec des machines folles qui font du bruit, qui sont dangereuses et puis qui finalement, bon, on travaille à notre rythme, tranquillement.
Ok,
Donc
d'accord.
voilà, en gros, 8-10 guitares par an. Après, la difficulté, c'est la diffusion, la vente.
Oui, comment ça se passe? Tu as un site internet? Comment
Ouais.
on fait en fait pour te trouver pour
Ben, il faut chercher. Voilà, non, le référencement, c'est compliqué. La publicité est très, très chère. Il y a les salons de la lutherie. Il y a. Bon, je ne suis pas trop branché salon de la lutherie. Moi, j'aime pas trop ça. Il y a de belles rencontres, mais c'est. J'aime pas cet aspect un peu concours. Tiens, regarde ce que j'ai fait. Ah, oh, bah tiens, tu as fait ça. Et puis après, on se voit plus. Ah, oh, c'est génial. Et puis après, on se voit plus le reste du temps. Bon, enfin, non. Moi, je préfère correspondre avec des luthiers de manière très régulière. Donner un coup de main, en recevoir aussi, parce que bah, des fois, ça dépasse mes compétences si y a une réparation sur quelque chose que je sais pas faire, une ancienne guitare, il faut la remettre en état, mais de la même façon qu'elle a été fabriquée. Donc il y a des spécialistes qui sont très compétents aussi dans d'autres domaines, la guitare classique nylon, la guitare flamenca. Je travaille les métaux, mais pour faire de la marqueterie, par exemple. Mais je ne serais pas à réparer une guitare Dobro ou.
Oui, ça
Voilà,
c'est un autre
c'est
métier,
des
ouais.
guitares qui sont toutes en métal. Donc, bon, ben bah, voilà, moi je. Non, moi je travaille le bois. Si quelque chose arrive comme ça chez moi, bon, bah, je vais peut-être dire. Peut-être que le monsieur qui travaille là-bas, peut-être que je vais le contacter, je vais voir ce qu'il en pense. Et puis à ce moment-là, aller chez ce maître artisan.
Bien sûr, je comprends.
Voilà, donc il y a les réparations, ça c'est très intéressant. Ça c'est des guitares qui rentrent régulièrement, des instruments qui rentrent très régulièrement,
Et
guitare
là, par contre, ça
basse.
peut être n'importe quel type
Oui, ça
de
oui.
guitare
Voilà, ouais.
électrique classique.
Voilà, électrique, classique, folk,
Folk, hein.
enfin, banjo. Un peu de tout. Là, il faut remettre en état, restaurer, refaire des vernis, changer les mécaniques, réparer une table qui a été fendue, un cou, un manche cassé, très souvent.
Ça arrive.
Oui, on pose pas la guitare contre un mur en porte-à-faux. Ça, mauvais résultat, ça. Généralement, ça tient pas. Le moindre choc, ça casse. Voilà, enfin, c'est ça. Et puis, c'est voilà, je reviens sur le fait d'avoir une vitrine. Ça permet de prendre des stagiaires, d'avoir des échanges intéressants aussi. Donc, avec les. Il y a les stages de troisième pour les
Tout à
scolaires.
fait, ouais.
Depuis quelques années, il y a les stagiaires en
En
seconde,
seconde aussi, ouais.
parce que on ne sait pas trop quoi en faire au moment du bac, donc il faut les garder. Merci l'éducation nationale. Donc on prend le relais. Alors c'est pas la faute au prof, c'est juste qu'il n'y a pas assez de profs. Ça, j'ai pas peur de le dire. Voilà, on est à la radio, c'est un peu triste. Les profs sont sur le front et croyez-moi, c'est pas de la tarte quand il faut rattraper le coup, apprendre à un ado, ne serait-ce qu'à dire bonjour correctement quand il rentre dans l'atelier, bonjour. Hop, coupé, on l'a refait. Bonjour, allez, vas-y, répète après moi. Donc voilà, et parce que un bonjour, ça se souhaite. Donc il y a aussi voilà ce côté humain qu'on va véhiculer. C'est marrant. Enfin, c'est voilà, on dirige un peu quelque chose. Et là, on transmet une passion. Là, j'ai eu deux stagiaires de seconde qui m'ont régalé.
Ok.
Ils étaient brillants, ils étaient polis, ils étaient ponctuels. Enfin, on n'est pas là pour parler de stage, tout ça, mais il y a ce côté humain, il y a ce côté proche des gens. Quand on est luthier, on est leur petit docteur en guitare
Ah oui, c'est ça,
personnel.
ouais, je vois.
Donc, faut savoir accueillir, faut savoir rassurer. Vous inquiétez pas, alors par exemple, vous inquiétez pas, monsieur. Non. Ce n'est que du bois, tout se répare. Voilà, tout est faisable. Après, c'est une question de est-ce que ça vaut le coup? C'est une question de prix, est-ce qu'on peut se le permettre? Tout ça, mais on est là pour. Il y a un côté rassurant, un peu comme quand on va chez le médecin et que on va pas bien, allez, ça va aller, sinon ça va, tout va bien. Alors bon, votre rhume, votre angine, votre truc, bon, ok.
Oui, c'est pas que l'aspect technique.
Voilà,
Tu mets beaucoup d'humain dans la relation.
oui, enfin, du moins j'essaie d'être humain et de le rester. Et par les temps qui courent, voilà, on n'est pas dans un magasin de téléphonie où on a un videur à l'entrée, il n'y a jamais rien qui
Et
marche,
puis
et
c'est des
puis on finit
produits
par aller.
standardisés, toi, c'est
Voilà,
l'inverse.
moi je tiens vraiment, voilà, c'est pas, je suis absolument contre la culture de supermarché, je vais appeler ça comme ça.
Ok.
Voilà, j'accompagne, je laisse le client rentrer, et puis au moment où il s'en va, je lui tiens la porte, je lui ouvre la porte, je le remercie d'être venu et de m'avoir fait confiance.
Ok.
Voilà, c'est des petites phrases qui vont peut-être porter, qui vont faire que, tiens, le luthier là, il est sympa. Et
Et
puis.
t'as des gens qui reviennent après, une fois qu'ils ont qui font
Alors.
faire l'entretien ou
Et
qui
oui, alors justement, c'est peut-être aussi une façon de fidéliser une clientèle, déjà en la traitant bien et pas comme des vaches à lait, comme dans la téléphonie ou le supermarché. Non, parce qu'on prend soin d'eux, on les accueille, on les accompagne, on soigne leurs instruments, encore une fois. Et ça compte, cette disponibilité. En
Tout
fait,
à fait.
humaine et professionnelle en même temps. On peut la mélanger. Moi, je suis beaucoup dans le vouvoiement. Quelqu'un rentre, c'est pas parce que je suis musicien que salut, ça va. Alors, qu'est-ce qui t'arrive avec ta guitare? Non, je le connais pas. Souvent, on me tutoie parce que c'est la musique qui veut ça, parce que voilà, j'ai l'air un peu rock'n'roll, un peu cool. Bon. Ouais, mais moi je reste au vouvoiement. Il y a une distance, mais voilà, c'est un truc un peu à savoir gérer, être humain, mais sans déborder. On reste
Chacun
pro,
a sa place.
chacun sa place. Moi je vous accueille, je répare votre instrument. Si vous voulez me tutoyer, il n'y a pas de problème.
Donc, du coup, on peut te retrouver rue droite
161.
Voilà, Assisteron. Et après, ton site internet
Oui, Discala Jazz, pardon, Discala Guitare, non, pardon, excusez-moi, c'est toujours compliqué les sites et tout. Voilà, c'est ça la nouvelle communication. Je me suis dit, ça fait quand même bien 25 ans que ça existe, mais Discala Jazz Guitars en anglais, .fr.
De toute façon, on mettra les liens sous le podcast
voilà.
de cette émission. Pendant laquelle j'ai eu plaisir à t'écouter, parler de lutherie.
Merci beaucoup.
La passion, on la sent.
Oui, je pense que oui, il vaut mieux être passionné. C'est pas. Bon, après, on n'est pas très riches, nous les luthiers, je pense. Hein. Dans l'artisanat, c'est assez compliqué, surtout l'artisanat d'art. Les charges sont très lourdes, mais bon, enfin voilà, c'est. Faut être passionné, sinon ça marche pas, quoi.
Ok. Eh ben, c'est bien noté. Écoute, je te dis à bientôt. On va recevoir les sages gosses qui vont nous parler de leur boom qu'ils okay. organisent à Digne ce samedi 6 septembre. Et puis en attendant, je vais vous diffuser un titre de un peu de stoner rock, voilà, d'un groupe local qui s'appelle Atomesis avec l'arbre tueur, voilà.
Okay.
Eh ben, merci.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et nous revoilà de retour dans votre émission Catalyse sur Fréquence Mistral que vous écoutez sur 99.3 FM. Et ce soir, après Jean-Michel Discala, le luthier de Sisteron, je reçois Camille des Sages Gosses. Bonsoir Camille.
Bonsoir Thibaut.
Alors les Sages Gosses, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est les Sages Gosses ? C'est une très bonne question. Pour résumer, très simplement, c'est un collectif d'une dizaine de jeunes professionnels de la culture qui ont décidé de mener des projets socioculturels, donc des événements. Et en l'occurrence, nous sommes ici ce soir parce que nous organisons la Boom des Sages Gosses ce samedi de 10h à 1h du matin, du coup à Digne-les-Bains.
Alors pourquoi Digne ?
Pourquoi Digne ? Très bonne question. Au départ, on est majoritairement des étudiants et étudiantes de Marseille. de Aix-Marseille Université. Et en fait, on s'est rendu compte que les étudiants et étudiantes des autres campus, donc des campus un peu plus éloignés comme celui de Digne, par exemple, n'avaient pas forcément la même offre culturelle que celle que nous avons. Et on s'est dit que ça pouvait être chouette de pouvoir échanger avec eux sur leurs envies, leurs besoins. Donc au départ, c'est un peu parti de ça. Et on hésitait en fait entre plusieurs villes. Et en fait, ce qui nous a fait choisir Digne-les-Bains, c'est surtout les personnes qu'on a rencontrées là-bas. Donc tous les actrices locaux avec qui on a échangé et qui nous ont fait dire qu'on était au bon endroit pour organiser ça.
Ok.
Voilà.
Donc tu parles de qui en particulier ?
Ouais, alors...
Il y a des partenaires
Ouais, bien sûr. Alors il y a plusieurs partenaires. Tout d'abord, il y a en fait la première association qu'on a rencontrée, c'est À Fleur de Pierre, ouais, qui est du coup une association qui est quand même très ancrée à Digne du coup, qui fait majoritairement des jardins partagés et qui parle aussi de tous les enjeux environnementaux, de la manière dont il faut appréhender le jardinage, ce genre de choses. Et en fait, on échangeait avec eux sur justement comment lier l'environnement et le social à la culture. Donc ça, ça a été nos premières interlocutrices, en l'occurrence. Mmh. Et par la suite, on s'est rapproché du TOP, que tu connais un petit peu.
Tout à fait.
Peut-être que tu en parleras mieux que moi, mais qui, en gros, organise aussi un festival. Et cette année, le TOP n'organise rien.
Et on s'est le TOP organise, mais un festival de théâtre.
Oui, pardon, je n'ai pas été assez précise. Merci pour la précision. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous n'organisez pas votre festival habituel de musique. Et c'est vrai qu'on s'est dit, après réflexion, que ça pouvait être chouette qu'on se lie sur une coprogrammation. Mais peut-être que tu pourras mieux expliquer ce qu'est le TOP que moi.
on va partir du principe que les auditeurs connaissent le TOP.
Parfait, très bien. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être chouette que du coup, le TOP nous soutienne et choisisse aussi une partie de la programmation avec nous. Et en l'occurrence, un groupe de musique qui fait partie du coup de notre programmation. Voilà.
Alors la programmation, c'est le plus important quand même.
Ouais, c'est le plus important, bien sûr, évidemment. Donc en fait, nous, l'idée, c'était de pouvoir lier plusieurs types de disciplines dans la même journée, parce qu'on trouvait ça important de faire dialoguer plusieurs types d'art au sein d'un même festival, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mmh. Donc en l'occurrence, il y a du coup deux pièces de théâtre, une clown, des spectacles de drag show, un spectacle de danse, et tout le reste, c'est de la programmation musicale, avec du coup divers pareilles sonorités en termes de musique. Et après, ça se construit de manière assez claire en fait sur la journée. Est-ce que tu veux que je te raconte peut-être le déroulé?
Il va falloir. Pour moi, je le connais, mais...
Ok, très bien. Eh bien, pour vous raconter un petit peu, donc le matin, en fait, on est basé sur deux sites, donc la médiathèque et la place, donc médiathèque François Mitterrand et la place Général de Gaulle qui se situe vraiment à 4-5 minutes à pied, donc c'est assez accessible. Et donc le matin, on a une programmation à la médiathèque du coup de théâtre majoritairement. Donc à 10h30, on a les bateaux de Thésée par la compagnie Les Enfants Ininterrompus qui parle d'une accusation terrible, c'est-à-dire un homme qui se retrouve au tribunal et qui est en l'occurrence accusé d'un crime absurde, celui de ne pas exister. Les festivaliers et festivalières pourront commencer par ça à 10h30 jusqu'à 11h45. Par la suite, on invite en fait les festivaliers et festivalières à aller sur le marché où ils pourront du coup trouver notre clown du collectif À la Source. Donc en fait, c'est Docteur Vital, cette clown, elle s'appelle. Et elle fait des thérapies vagabondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une thérapie vagabonde? Je vous laisse aller la voir.
La découverte.
C'est ça, je vous laisse y aller et découvrir ce qu'elle propose. C'est très intéressant et vraiment très chouette. Donc je vous invite à y aller. Par la suite, on reprend du coup une programmation sur la médiathèque, qui en l'occurrence sera à 14h30, donc pas très loin après le marché, vous laissant le temps de manger. Et c'est une pièce du coup de théâtre toujours qui s'appelle Des créatures extraordinaires par la compagnie Des Créatures, qui parle des réalités plurielles sur le fait de se renouer, débattre, créer ensemble, avec parfois de la colère face à l'impuissance, parfois une colère plutôt douce. En gros, c'est ces enjeux-là qui sont un peu à discuter, et en fait, comment se réapproprier ces ressentiments. Donc ça, c'est 14h30 à 15h45. Et par la suite, il y a une petite pause quand même dans l'après-midi pour que les gens puissent intégrer tout ce qui s'est passé dans la matinée. Et on repart du coup avec une programmation musicale avec du coup 17h15 sur la place Générale de Gaulle, Luna Lamio, qui est une artiste indie pop, qui pour le coup partage ses compositions en seul en scène, majoritairement accompagnée de sa guitare ou avec un musicien. Donc ça, c'est 17h15-18h. Par la suite, vous pourrez rencontrer Laura, qui est une danseuse aux mille couleurs, qui joue beaucoup entre les mouvements et la lumière. Son spectacle dure de 18h à 18h30. C'est une personne qui est du coup sur Digne, qui est à...
Shadow Dance.
Voilà, je vais me tromper dans le nom de l'association. Merci. Par la suite, vous allez pouvoir découvrir Amande, qui est une artiste qui a été formée au conservatoire et qui est très influencée par le R&B. C'est là où, en fait, elle va s'épanouir et qu'elle révèle une voix au timbre chaud et délicat qui devient, en fait, sa signature artistique. Donc, pour le coup, Amande, vous pourrez la retrouver de 18h30 pardon, à 19h. Par la suite, on vous invite à venir voir une performance drag. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, n'ayez pas peur. Pour le coup, les mutantes sont vraiment très intelligentes et savent parfaitement manier l'humour et les mots. Et elles sont vraiment superbes à aller voir. J'ai l'habitude de les voir assez fréquemment et elles sont vraiment super. Vous pourrez retrouver du coup leur performance à 19h, 20h30 et 22h15. Et après, pour les quatre derniers artistes, c'est essentiellement de la musique, des compositions aux sonorités différentes de celles que j'ai mentionnées précédemment. Mm-hmm. Donc notamment Chuchicha, qui est déjà venu à Digne plusieurs fois, si je ne dis pas de bêtises, qui fait de la cumbia électro, donc pareil, qui métisse avec des instruments acoustiques et puis des synthétiseurs. Et en l'occurrence, ils passeront de 19h30 à 20h30. Par la suite, c'est le groupe du coup sélectionné par le top et les lycéens qui ont participé à tout un programme de sélection en lien du coup avec l'association du top. Donc c'est Akampa qui fait de la funk progressive, du groove, qui touche quand même à pas mal de sonorités très différentes, en passant de la soul, du jazz, du reggae, du hip-hop. Donc, pour le coup, ils et elles passeront à 21h, pardon, jusqu'à 22h15. Par la suite, un autre groupe qui avait été proposé aussi par le top, que en fait, l'équipe des Sages-Gosses, mon équipe a au final décidé de conserver, parce qu'on a trouvé très chouette leur proposition, c'est Le Bleu, qui fait du rock et de l'indie rock. Donc, c'est très chouette. Il y a une, c'est du rock alternatif, quoi. Et pour finir, cette programmation riche en couleurs et en sonorités, pour le répéter à nouveau, Mucus Dub, qui du coup fait de la musique dub, donc pour le coup un DJ set, quelque chose de plus tranquille pour finir la soirée, avant que tout le monde tombe dans les bras de Morphée. Voilà.
À une heure.
À une heure, exactement. De minuit à une heure.
Donc du coup, trois lieux, en gros, la médiathèque, le marché...
c'est ça.
Et la place Générale de Gaulle. Donc je suppose que avec les services de la mairie, il a fallu se coordonner,
ouais.
Avoir les autorisations nécessaires et tout ça.
Ouais.
C'est bon, c'est tout,
oui.
C'est tout ok.
Tout est calé.
Bon, impeccable.
On a un interlocuteur qui nous aide beaucoup à la mairie, donc ça aide aussi.
Oui, bien sûr.
Pas mal. Mmh. Mais c'est vrai que c'est conséquent quand même comme travail de mener ça sur plusieurs lieux. Mais ça va être chouette et on espère vous voir nombreux, nombreuses pour ça, quoi. Et ouais, on a toutes les autorisations, tout est bon dans les règles de l'art.
Alors, on peut y aller. Donc, on le répète, la boom des Sages-Gosses, ouais. Le samedi 6 septembre, donc ce samedi,
ouais.
À partir de 10h.
10h jusqu'à 1h.
Jusqu'à 1h, donc voilà, n'hésitez pas, entre la médiathèque le matin... Le clown en déambulation sur le marché, retour à la médiathèque à 14h, la petite pause, et puis après de 17h en gros jusqu'à 1h du matin.
Exactement.
Sur la place Générale de Gaulle. Non seulement des groupes de musique, mais aussi de la danse, et puis un spectacle aussi, drague. Ok, Eh ben voilà.
Ouais, ça va être chouette, ça va être super. Et en tout cas, si vous avez des questions quelconques, nous, on sera aussi disponibles sur la place et à la médiathèque pour vous y répondre ou pour vous aiguiller sur tel ou tel spectacle ou représentation en fonction de ce que vous aimez. On est aussi habilité à ça, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, on sera ravis. Et de la même manière, vous pouvez nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et Insta.
Les sages gosses.
Exactement, partout.
Impeccable. Merci Camille.
Merci de m'avoir reçue.
Et puis à samedi.
Et à samedi, évidemment.
À bientôt.